Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner une petite introduction à notre colloque « Nouvelles recherches autour de la stèle de Mecha, Neue Forschungen zur Mecha-Stèle » afin de présenter le cadre dans lequel se situe la découverte de la stèle et aussi les recherches autour d'elle. La préhistoire de notre colloque se divise en deux chapitres, dont le premier se déroule en Orient et le deuxième en Europe. Ce premier chapitre porte sur des voyages. En fait, c'était des voyages en Égypte, en Anatolie, en Syrie-Palestine, en Mésopotamie, effectués par des chercheurs européens qui entraînaient un changement fondamental dans la connaissance des sources iconographiques et littéraires du Proche-Orient. Qu'il me soit permis de mentionner seulement les noms des trois premiers voyageurs, en laissant de côté les pèlerinages en Terre Sainte et aussi les croisés. Pietro della Valle était le premier à voyager en Turquie, en Égypte, en Syrie-Palestine, en Mésopotamie et en Perse pendant les années 1614 à 1626. Le monde scientifique lui doit les premières impressions de l'écriture cunéiforme. Jean Chardin faisait lui aussi le tour de l'Orient et de la Perse. En 1627, il publia ses aventures d'Orient qui constituaient une source sans pareille pour la connaissance de la civilisation persane contemporaine. Carsten Niebuhr, enfin, voyageait en Arabie et dans les pays voisins pendant les années 1761 à 1766. Lui aussi publia un récit de voyage en plusieurs volumes. Son grand intérêt était la géographie. Avec la mission de Niebuhr commence les missions scientifiques en Orient. De ces missions, il en faut mentionner deux grandes expéditions en Égypte et au Proche-Orient. La première était la campagne en Égypte du général Bonaparte en 1799, dont les résultats scientifiques étaient publiés en 1802 dans le voyage et dans la Haute et Basse-Égypte par Dominique Vivant de Nome, et avant tout dans les 26 volumes de la description de l'Égypte. La deuxième expédition était la mission de Phénicie, inaugurée par l'empereur Napoléon III, et cette expédition était effectuée par Ernest Renan en 1861 et publiée par lui-même dans les années suivantes. Juste en passant, je voudrais encore mentionner les fouilles archéologiques qui commencèrent dans la première moitié du XIXe siècle et dont la première était la découverte et la fouille de Dourcharoukine, Khorsabad. Ce matin, on était dans la cour de Khorsabad, au musée du Louvre, commencée en 1842 par Paul-Émile Botta. Cette fouille était le point de départ d'une grande série de fouilles en Égypte, en Anatolie, en Mésopotamie et en Syrie-Palestine, des fouilles qui continuent jusqu'à ce jour et qui ne cessent de nous livrer des sources inestimables pour l'exploration du Proche-Orient ancien. Le deuxième chapitre de notre colloque se déroule en Europe. Il commence, comment pourrait-il en être autrement, ici à Paris. En 1854, l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, fondateur du cabinet des médailles du roi Louis XIV, réussit à déchiffrer l'écriture de quelques inscriptions de Palmyre. Pour atteindre ce but, il pouvait se servir de quelques inscriptions bilingues palmyréniennes grecques qui lui fournissait la clé de décrypter l'alphabet palmyrénien. En plus, en tant que théologien, l'abbé Barthélemy connaissait aussi l'hébreu classique, c'est-à-dire une langue sémitique, ouest-sémitique, avec son écriture. 4 ans après, il déchiffrait aussi l'écriture phénicienne grâce à quelques pièces de monnaie qui étaient à sa disposition, ainsi que grâce à une cippe avec une inscription gréco-phénicienne de Malte qui se trouve au Louvre. Ne cachons pas que ces deux réussites de décryptage n'étaient pas le but propre de Jean-Jacques Barthélemy. En fait, il voulait déchiffrer l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte. Son succès en palmyrénien et en phénicien n'était qu'un travail préliminaire. Pourtant, c'est avec ces deux réussites épigraphiques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que commence la grande histoire des déchiffrements du XIXe et du XXe siècle, une histoire dont je ne peux mentionner que quelques jalons. Ça commence avec le déchiffrement de l'écriture cunéiforme vieux perse par Georg Friedrich Grotefend à Göttingen en 1802 et la continuation du déchiffrement de l'écriture cunéiforme babylonienne par Henry Creswick Rawlinson, Edward Hinks, Henry William Fox Talbot et Jules Oppert jusqu'en 1857. 2. Le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte par Jean-François Champollion pendant les années 1822 à 1824 grâce à la pierre de Rosette. 3. Le déchiffrement de l'écriture sud-arabique pendant les années 1837 à 1841 par Wilhelm Gesenius et Émile Rödiger. 4. Le déchiffrement de l'écriture proto-sinaïtique par Ellen H. Gardiner en 1916. 5. Le déchiffrement de l'écriture alphabétique cunéiforme d'Ougarit par Hans Bauer, Paul-Édouard Dorm, Charles Virolo, Marcel Cohen pendant les années 1929 à 1932. Et dernièrement, le déchiffrement des hiéroglyphes anatoliens par Piero Merigi, Émile Forer depuis les années 30 du dernier siècle et son parachèvement par Emmanuel Laroche dans les années 50. Par voie de conséquence, les différents déchiffrements aboutissaient d'une part à la publication de dictionnaires et de grammaires pour les langues de l'Égypte, de l'Anatolie, de la Mésopotamie et de la Syrie-Palestine, et d'autre part à des éditions de textes ainsi qu'à des traductions dans les langues modernes. Tout cela changeait considérablement la position de l'Ancien Testament. Au fond, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'Ancien Testament était presque la seule source de données sur l'histoire et les religions de l'Ancien Orient. De plus, il avait aussi le monopole d'interprétation du passé de l'Ancien Orient. Mais avec l'œuvre de l'abbé Barthélemy, commençait une nouvelle étape pour l'exploration de l'histoire du Proche-Orient et de ses civilisations. D'une part, le monopole d'interprétation du passé de l'Ancien Orient, tenu par l'Ancien Testament, était aboli. D'autre part, dès lors, les textes de l'Ancien Orient parlent immédiatement à nous. En effet, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, avait lieu une émancipation de nouvelles sciences comme l'égyptologie, l'assyriologie et les études sémitiques qui réussirent à s'établir comme disciplines autonomes au sein des universités européennes. La première chaire d'assyriologie était établie en 1874, ici au Collège de France. Son titulaire, Jules Oppert, était professeur pour philologie et archéologie assyrienne. Un an après, Eberhard Schrader devint professeur d'assyriologie à la Friedrich-Wilhelms-Universität de Berlin. Cette petite rétrospective sur la naissance de l'orientalisme moderne nous montre donc que la découverte de la stèle de Mécha en 1868 par Friedrich August Klein dans les ruines de la ville de Dibon, l'ancienne capitale du royaume de Moab, s'inscrit dans des circonstances favorables à des découvertes archéologiques et épigraphiques. Cela explique aussi le désir d'acheter la stèle et de la transporter dans un musée européen pour la présenter au public savant européen et, bien sûr, aussi pour la protéger des destructeurs. Après la découverte, le sauvetage et la reconstruction de la stèle de Mécha, l'inscription moabite était plus ou moins facilement lisible. De plus, son contenu n'était pas tout à fait inconnu. Le pays de Moab est mentionné plusieurs fois à l'Ancien Testament. Le roi Mécha, lui aussi, était déjà connu de l'Ancien Testament, où il est mentionné une fois dans le livre des rois, deuxième livre des rois, 3-4. Le texte qui s'ensuit suggère que le sacrifice du premier-né était effectué par le roi Mécha lui-même, quoique son nom ne soit pas mentionné explicitement. En outre, l'Ancien Testament relate la domination du royaume de Moab par le royaume d'Israël, bien qu'avec circonspection, puisqu'on apprend seulement qu'après la mort du roi Achab, Moab se révolta contre Israël, 2 rois 1-1 et 3-5. Il n'empêche que le contenu de l'inscription de Mécha offrait des surprises, car le texte raconte des aspects plutôt voilés par l'Ancien Testament. La Bible se tait sur le grand pouvoir des deux premiers rois omrites sur la terre de Moab, avec une petite exception en 2 rois 1-1, afin d'éviter de les rendre trop importants vis-à-vis des rois davidiques de Jérusalem. À cet égard, la stèle de Mécha est comparable aux inscriptions de Tel Der Allah trouvées en Jordanie du Nord en 1967, mentionnant le prophète Balaam, lui aussi connu de l'Ancien Testament. Si les récits du livre des Nombres parlent de lui et l'intègrent dans l'histoire religieuse d'Israël, dans les inscriptions de Tel Derala, c'est le prophète Balaam lui-même qui nous adresse. L'inscription du roi Mécha, qui constitue une source de premier plan, a considérablement changé nos vues à la fois sur l'histoire du royaume de Moab et plus généralement sur l'histoire de la Transjordanie et du sud du Levant dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Aussi sur l'histoire des religions west-sémitiques, sur la philologie sémitique et aussi sur l'histoire d'Israël. Tout comme les inscriptions de Tel Derala, l'inscription du roi Mécha nous invite en plus à une relecture de l'Ancien Testament. Pour ce qui est du roi Mécha, lui aussi nous adresse directement par son inscription, grâce à laquelle il n'est plus l'objet passif d'un récit biblique. Il se présente plutôt comme un roi fier et puissant, avec une intéressante idéologie royale. Pour ce qui est de la philologie moabite, l'inscription du roi Mécha est presque la seule base pour la reconstruction de la grammaire moabite, parce que généralement les inscriptions moabites sont rarissimes et en outre très courtes. Chers collègues, mesdames et messieurs, je viens de présenter une esquisse du cadre de notre colloque « Nouvelles recherches autour de la stèle de Mécha »« Neue Forschungen zur Mécha-Stèle ». Les nouvelles recherches dont nous entendrons les comptes rendus aujourd'hui et demain concernent aussi bien l'archéologie du site de Diban que la reconstruction de la stèle au musée du Louvre, l'épigraphie, la philologie moabite, l'exégèse de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël et l'histoire des religions west-sémitiques. En outre, l'exposition « Mécha et la Bible, quand une pierre raconte l'histoire » ici au Collège de France encadre parfaitement notre colloque. La publication des actes de notre colloque est prévue dans la série « Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins ». Thomas Römer et moi-même nous en occuperons, espérant que le volume paraîtra fin de l'année prochaine. Je vous remercie cordialement de votre attention.